France Inter, franceinter.com.
Vous portez contre moi une sentence avec peut-être plus de crainte que moi qui la reçoit. Giordano Bruno, 9 février 1600. Ans d'histoire. Le 9 février 1600, le philosophe italien Giordano Bruno était condamné pour hérésie par le tribunal de l'Inquisition. Livré aux bras séculiers, il allait être brûlé vif 8 jours plus tard sur la place Campo dei Fiori de Rome. Ce jour-là, au moment où il montait sur le bûcher, la langue entravée par un mort de bois, il détourna les yeux du crucifix qu'on lui tendait et leva la tête vers le ciel, comme pour montrer à ses juges l'univers qu'il avait été le premier à découvrir. Un univers infini qui allait bien au-delà des limites du ciel représentées depuis des siècles sur les astrolabes du Moyen-Âge et dont Galilée, grâce aux premières lunettes astronomiques, confirmera la réalité 10 ans après le supplice de Giordano Bruno.
Qu'est-ce que c'est ?
Un astrolabe, l'objet montre comment, d'après les anciens, les astres se déplacent autour de la Terre.
Et comment ?
Premier point, description.
Au milieu, il y a une petite pierre.
C'est la Terre.
Tout autour, toujours l'un par-dessus l'autre, des anneaux.
Ce sont les sphères de cristal.
Sur les anneaux sont fixées des boules.
Les astres. Et maintenant, fait tourner le soleil.
C'est beau. Nous sommes vraiment à l'étroit.
Des murs, des sphères et l'immobilité. Durant 2000 ans, l'humanité a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Mais maintenant, nous prenons de large, Andrea. Aujourd'hui, 10 janvier 1610, l'humanité inscrit dans son journal « Ciel aboli ».
C'est effroyable. Il n'y a pas 10 ans qu'un homme a été brûlé à Rome. Il s'appelait Giordano Bruno. Et il avait précisément soutenu cela.
Jean-Ricky, bonjour. C'était un extrait de La vie de Galilée de Bertolt Brecht. Galilée qui, contrairement à ce que l'on dit souvent, n'a pas imaginé ou inventé, découvert que la Terre tournait autour du Soleil, et non contrairement à ce que l'on disait jusque-là. Ça, c'est Copernic qui n'a pas découvert non plus, Galilée, que l'univers était infini. Ça, c'est Giordano Bruno qui l'a découvert. Et pourtant, il est beaucoup moins connu que Copernic ou Galilée. On parle beaucoup moins de Giordano Bruno. Pour quelle raison ? On a l'impression qu'aujourd'hui, 400 ans après, alors que, vous le dites, il a été un précurseur, un immense savant, non, philosophe en réalité, et on l'a oublié, on ne pense plus qu'à Copernic ou à Galilée.
Eh bien, je pense que c'est d'abord en raison du fait qu'il était dominicain et évidemment...
Que l'Église était scandalisée par le fait que les deux autres étaient des savants.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. L'Église était scandalisée et il était l'horreur. C'est-à-dire que il remettait en cause, en parlant de l'infini, il remettait en cause la nature de Dieu, puisqu'il y avait à ce moment-là une pluralité des mondes. C'est-à-dire que tout était remis en cause. Il était l'horreur.
Et ça, c'est la découverte, non pas d'un savant, hein, comme Galilée ou Copernic, mais vous le dites, d'un philosophe, hein, d'un dominicain, mais d'un philosophe, d'un écrivain aussi. Vous le dites, Jean Rocky, c'était un très grand écrivain, il a beaucoup écrit.
Je pense que c'est un des plus grands écrivains de son époque, sinon le plus grand. Mmh. Et parce qu'il a écrit quand même une quarantaine d'ouvrages en 16 années, ce qui représente 2 à 3 livres par an. Et c'est aussi un très grand poète, et je pourrais vous dire un poème de lui tout à l'heure.
Alors, également un ecclésiastique, hein. Il est né, il faut le rappeler, en 1548 à Nola, près de Naples. Et puis alors il entre au couvent des Dominicains de San Domenico Maggiore, là il y a une immense bibliothèque, mais surtout il se fait remarquer par des idées plutôt révolutionnaires. Il remet en cause le culte des saints, il supprime toutes les images des saints qui peuvent se trouver dans sa cellule, il critique le dogme de la Trinité, enfin bref, c'est vraiment un rebelle, hein, dès le début.
Oui, mais ça tient au fait qu'il est en contact avec une bibliothèque immense. Mmh. C'est la plus grande, certainement, de la Méditerranée. Et qu'il a eu accès à des gens qui sont antérieurs au christianisme. Il a lu tous les Romains, il a lu les Arabes, il a lu les... Enfin, il a assimilé beaucoup de choses. Et donc, il commence à remettre en cause son propre, ce qu'il a reçu comme enseignement. Et voilà, c'est ça.
À tel point d'ailleurs que c'est qu'on lui reproche de lire des livres interdits, même s'ils sont dans la bibliothèque du couvent des Dominicains de Naples, et que c'est pour cette raison, en fait, qu'il en est chassé, ou plutôt qu'il s'en va, on ne sait pas très bien. Mais enfin bref, il devient un prêtre défroqué à ce moment-là.
Moi, je pense qu'il s'en va parce que... Il a une sphère à faire sauter, c'est la sphère du dogme. Mmh. Il est docteur en théologie, il a deux thèses sur Saint Thomas. Donc il connaît très bien, et il connaît l'histoire de la religion. Donc il a bien vu les débuts de la religion, et il s'interroge sur le destin de la religion aussi.
Et alors il s'enfuit donc, il quitte en tout cas l'Italie bien vite, et il devient un apostat, c'est-à-dire en fait un ecclésiastique qui a abandonné la vie religieuse. Il commence pour lui donc un très long périple de 16 ans à travers toute l'Europe où il va se rendre célèbre.
Voici un homme que nous connaissons tous comme écrivain et philosophe, Giordano Bruno. Vous êtes venu enseigner les secrets de la magie ? Monsieur Bruno, vous admirez le roi de France qui se déclare protestant et peut-être athée. Eh oui, j'aime Henri IV. Il va de victoire en victoire et balaye les partis des grandes maisons qui ont massacré la France. Mais il renonce à se venger et proclame la paix religieuse après 50 ans de guerre. C'est un prince éclairé et tolérant.
È un principe, illuminato e tollerante.
Elle s'occupe solo de philosophie.
Bruno, il s'occupe de philosophie ou de politique?
De philosophie.
De philosophie, de politique, il s'occupe de tout.
Elle s'occupe de tout.
Et c'est une gaillarde napolitaine du pays donc, de Giordano Bruno et du XVIe siècle, donc de l'époque de Giordano Bruno, Jean Rocchi. Et Bruno donc qui part comme ça à l'aventure dans toute l'Europe. Il commence par la Suisse et voilà que ce dominicain même se fait calviniste en Suisse.
Ce qu'il y a, c'est qu'il a des idées à semer. Avant d'arriver en Suisse, il est passé par Venise et il avait évidemment retiré sa tenue de dominicain. Et à Venise, on lui a conseillé de la remettre. Quand il arrive à Genève, les Italiens de Genève lui conseillent de vite retirer cette tenue. Et donc, il reprend une tenue civile. Et il assiste aux cours à l'université parce qu'on remarquera que Bruno est attiré par toutes les universités.
Et alors, le chasser, en fait.
Mais
il va être excommunié par les calvinistes.
Non, mais il va remarquer des erreurs dans les cours d'un de ses professeurs. Et à partir de ces erreurs, il va faire une petite brochure. Parce qu'il est bien aussi, beaucoup avec les typographes, les imprimeurs, il va faire une petite brochure. Et ça va lui faire un procès. Parce que le professeur qui l'attaque est un ami du pouvoir en place.
Il avait la langue bien pendue. Alors, on va le retrouver ensuite en France, auprès du roi de France,
oui,
Henri III.
Il passe par Toulouse.
Oui, mais enfin, là, oui. On ne va pas faire les 16 ans c'est les guerres de religion. Il arrive auprès d'Henri III, qui s'intéresse à une particularité, une caractéristique de Giordano Bruno, c'est qu'il avait une extraordinaire mémoire. Ça, ça a compté beaucoup. Hein. Il avait même écrit un traité mnémotechnique.
On ne peut pas discuter de sa mémoire. Elle est immense, certainement. Ouais. Ça se voit dans ses écrits, il a des références à des tas de choses. Mais Sur
parce qu'on vient, on lui pose des questions sur comment est-ce qu'on peut retenir des choses, des lectures, etc.
Oui, c'est je pense que ça. Oui, Henri III est séduit, c'est sûr. Il veut l'entendre. Et donc, il reçoit Bruno. Et là, il voit qu'effectivement, il connaît beaucoup de choses. Mais la mnémotique de chez Bruno n'est pas retenue aujourd'hui parce que c'était assez... C'était un truc, si je veux dire.
En tout cas, il est très célèbre en Europe. On s'arrache Giordano Bruno pour des tas de raisons. Recommandé par Henri III, il part en Angleterre à ce moment-là. Et là, il va rencontrer la reine d'Angleterre. Il va travailler à Oxford. Il a même, dites-vous, inspiré des personnages de Shakespeare.
Oui, il a inspiré notamment dans les Peines d'amour perdues, le Browne. Qui est traduit en France aujourd'hui par Biron. Mmh. Mais on ne comprend rien si ce n'est pas Bruno qui est le personnage central. Mmh. Parce qu'effectivement, ça tourne autour des femmes et du comportement de Bruno autour des femmes. Alors,
mais c'était aussi un intellectuel. Brown, c'était un intellectuel qui était tellement absorbé par son travail qu'il oubliait de manger, quoi.
Oui, et il s'était mis comme règle d'oublier les femmes pendant quelques années pour faire des choses intelligentes. Mmh. Et ça n'a pas plu du tout à Shakespeare, qui, avec beaucoup de respect, a quand même reconnu que Bruno était un grand personnage. Mmh. Ça se voit dans la lecture de Peine d'amour perdue.
Il y a d'autres personnages, un personnage de Marlowe également. Alors,
Faust, il y a Bruno. Bruno en personne.
Faust de Marlowe, il faut préciser.
Faust de Marlowe.
Il est également intéressé, il enseigne les théories de Copernic. Alors là, on vient à l'essentiel, Jean Rocky. Nous sommes dans un monde où ces théories de Copernic est mort en 1543, donc bien avant, il adhère, Bruno adhère aux théories de Copernic qui bouleversent l'idée d'un monde tel qu'on l'imagine depuis déjà 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'époque d'Aristote, depuis Ptolémée. Qu'est-ce qu'on dit ? La Terre est immobile, au centre de l'univers, le Soleil et toutes les planètes tournent autour. Bref, c'est une idée fausse qui est colportée depuis des années. Et voilà que Copernic, au milieu du XVIe siècle, découvre, imagine le contraire. Ces théories, eh bien, Bruno y adhère, il est tout à fait partisan de ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire les planètes et la Terre qui gravitent autour du Soleil. Mais alors, ce qu'il y a d'important chez Bruno, c'est que lui, eh bien, il va aller beaucoup plus loin, car Copernic croyait que le Soleil était une étoile unique. Bruno, lui, considère que l'univers est infini.
Il cosmo, uno eterno infinito.
Le cosmos, un, éternel et infini. Et la Terre est un des mondes, et nous, à sa surface, nous, les formes, gravitons autour du Soleil sans en prendre conscience. À une nouvelle vision du cosmos doit correspondre une nouvelle conception de l'homme. Si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, comme les autres planètes tournent autour du Soleil, s'il y a d'autres systèmes solaires dans l'univers, si cela est vrai, et c'est vrai, alors Dieu n'est pas au-dessus de nous, hors du monde, mais partout, dans chaque particule de matière, inerte ou vivante. Il est la matière même.
Extraordinaire ce qu'imagine, puisqu'il n'a rien pour l'observer, ce qu'imagine Jean Rocky, ce qu'imagine Giordano Bruno. Hein. Là, il imagine, au fond, on peut dire qu'il invente l'univers infini.
Oui, le génie de Bruno, c'est d'avoir une vision du cosmos qui va correspondre à ce qui est aujourd'hui prouvé sur l'infini et la pluralité des mondes. Aujourd'hui, toutes les lunettes des observatoires du monde sont branchées sur les étoiles pour voir s'il y a des planètes autour. Et des planètes, et c'est Bruno qui a dit « Regardez bien le ciel ». Vous verrez qu'il y a certainement des planètes et qu'on ne les voit pas parce qu'elles sont trop petites.
Oui, parce que même, il faut rappeler, pour Copernic, il y a un soleil unique. Lui dit, mais il y en a des centaines de milliers, sont les étoiles. Oui. Et autour des étoiles, il y a d'autres planètes qui doivent tourner.
Et non seulement il y a des planètes, mais lui, il va encore plus loin. Il va dire, et sur chaque planète, il y a d'autres humanités.
Ça, c'est extraordinaire parce que c'est exactement
Il va dire quelque chose qui est important pour la suite du travail des chercheurs, il faut savoir et connaître que l'objet d'une enquête existe ou qu'il est possible et envisageable, c'est ce qui est fécond. Il faut savoir ce qu'on cherche. Et lui, il va donner dans plusieurs directions des idées qui vont permettre, qui vont définir le cadre de la recherche scientifique. Je vais un peu loin, mais c'est quand même un germe de la recherche qui va venir.
Alors tout ça, on le sait aujourd'hui, à l'époque c'était révolutionnaire, Jean Roquis, l'univers, et surtout, et on l'a entendu dans l'extrait de film, et surtout les conséquences qu'il en tire. Et là on comprend bien que ça ait pu choquer l'Église. Il disait au fond, Dieu c'est la matière, c'est tout ce qu'on voit.
Mais l'homme était très heureux parce qu'il regardait le ciel, il voyait ce soleil qui tournait autour de lui, il voyait ces étoiles qui l'éclairaient. Donc il était très heureux et c'est ça qui a bouleversé totalement l'humanité. Alors,
et l'Église aussi, parce que l'Église au fond, que l'idée que la Terre ne soit plus au centre de l'univers, qu'elle bouge comme, et qu'elle soit au fond une planète parmi d'autres, hein, ça veut dire que l'homme, qui est la plus belle création en principe de Dieu, n'est plus du tout le centre du monde. Mais surtout, l'idée que Dieu est partout, c'est ce qu'on appelle le panthéisme, ça, ça choquait beaucoup.
Oui, oui. Si l'univers est infini, il ne peut pas y avoir... L'univers est infini à cause d'un argument, ça s'appuie sur un argument théologique. C'est parce que Dieu, étant puissant et infini, ne peut pas avoir créé seulement une petite terre avec un petit soleil. S'il est infini, il ne peut être que dans l'infini lui-même. On ne peut pas concevoir deux infinis. Un infini spirituel et un infini matériel, non. Les deux sont ensemble. Donc à partir de là, Dieu est donc dans la matière. Et il va donc dire... Dans la matière, il y a une substance matérielle, une substance spirituelle. Mmh. Et en remontant la recherche, peut-être trouvera-t-on que le matériel et le spirituel, ce n'est qu'une seule chose.
Alors, en tout cas, il découvre un univers absolument incroyable, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais lui, il le découvre en philosophe, simplement dans son imagination, puisqu'il n'a aucun moyen technique dont disposera Galilée, 10 ans après la mort de Bruno. Ce sont les premières lunettes astronomiques. Mais alors, tout ça n'intéresse finalement pas tellement ses contemporains encore. Ils sont très intéressés, là encore, par ses autres talents. Et c'est ainsi qu'en 1591, Bruno va accepter de revenir en Italie, chez un riche vénitien qui s'appelait Giovanni Mocenigo, qui lui demande à Bruno de lui apprendre l'art de la mémoire. Et puis Bruno refuse et finalement, en 1592, il livre Giordano Bruno à l'Inquisition.
Frère Giordano Bruno, tu es accusé d'apostasie, d'hérésie, d'enseignement contre la religion et de blasphème. Je prétends être un philosophe, pas un théologien. Et vos affirmations sur la Trinité? Je n'ai jamais compris ce que signifie parler de trois personnes.
Dalla lettura attenta dei vostri scritti.
Dans vos écrits, vous avez affirmé que Moïse était un magicien, et même Jésus. Vous avez soutenu que notre Seigneur mourut pendu et non crucifié, et qu'il faisait de faux miracles. Tu as écrit, il faut éloigner les prêtres des couvents, ils souillent le monde. Tu as écrit, les prêtres doivent se marier, car c'est un vrai péché que l'Église considère péché, un don si beau de la nature. Ce n'est pas comme ça. Si vous voulez examiner l'ensemble de mes œuvres, je suis prêt à discuter avec tous les docteurs de l'Église. Vous pouvez disposer, merci.
C'est terrible ce dont l'Inquisition accuse Bruno, pas seulement d'avoir découvert un nouvel univers, Jean Roquis, mais aussi des tas de blasphèmes, la façon dont il parle de Jésus, dont il conteste la Trinité, imaginant même le mariage des prêtres. Ça, évidemment, aux yeux de l'Église, c'était des blasphèmes.
Oui, mais je dois remarquer quand même que nous avons uniquement la version de l'accusation et pas la version de la défense. C'est-à-dire que l'Église s'est appuyée sur aussi des témoignages de compagnons de cellules qu'elle a fait parler sous la torture pour leur faire avouer des choses. Et il fallait condamner Bruno. C'était un postulat, je pense, au départ. On a seulement comme chose certaine les interrogatoires de Venise. Et à Venise, Bruno reconnaît certaines choses qui sont soi-disant blasphématoires, mais avec beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire, il dit, mais moi, je ne suis pas religieux pour l'instant, je suis philosophe, et vous, vous êtes théologien, nous parlons de choses différentes. Donc il va essayer pendant tout son procès, ses procès, de séparer la théologie de la...
Mais est-ce que parce qu'aujourd'hui on dit bon il est condamné parce que il a inventé une théorie de l'univers qui convient pas à l'idée que se fait l'Église ou la Bible de la création, est-ce que c'est pas aussi parce que il tenait des propos blasphématoires encore une fois aux yeux de l'Église?
Je ne pense pas, parce que là-dessus il était prêt à Genève, il avait montré comment il pouvait s'en sortir, et il se mettait à genoux et il s'en sortait très bien. Non, s'il y avait eu que ça, il s'en serait très bien sorti.
Alors, il est arrêté à Venise en 1592. Il va rester 8 ans en prison puisqu'il va être transféré à Rome. Il va y avoir un interminable procès qui a donc duré 8 ans. Il va même être torturé en prison. Ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean Rocky, c'est la façon dont il s'acharne à refuser, en fait, d'abjurer. Évidemment, on lui demande d'abjurer et il refuse. Il considère que ce qu'il a découvert, c'est la vérité. Il n'a aucune raison de la renier.
C'est très vrai, mais pendant tout son procès, il va jouer comme la souris entre les pattes du chat, c'est-à-dire qu'il va trouver des arguments. Comme il est plus fort, même en théologie, il est plus fort que ses juges, il va toujours trouver des arguments pour dévier la discussion ou pour poser à ses accusateurs des questions très très difficiles. Donc c'est comme ça, on va lui demander à la fin de se prononcer sur ces 8 accusations. Il va dire oui, mais elles sont hérétiques à partir de maintenant. Pas, elles n'étaient pas hérétiques quand je les ai données. Ce sont des arguties de procès. Il va jouer pendant 8 ans comme ça.
Et ça jusqu'au 9 et non 8 février 1600, au 9 février, contrairement, et pas le 8, encore une fois, comme le dit ce dernier extrait du film.
Oggi. 8 febbraio 1600. Diciamo, pronunziamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno, eretico impenitente.
En ce jour, 8 février 1600, nous te jugeons, Giordano Bruno, hérétique, et donc tombons sous le coup de la censure ecclésiastique. Nous condamnons tous tes écrits comme hérétiques et faux, ordonnons qu'ils soient publiquement brûlés sur la place Saint-Pierre et qu'ils soient inscrits à l'index des livres interdits. Nous te livrons au gouverneur de Rome.
Et le gouverneur de Rome, le bras séculier, comme on disait, va faire brûler vif Giordano Bruno sur la place Campo dei Fiori le 17 février, 8 jours après le procès. Une mort absolument abominable, Jean Rocky.
Oui, d'abord... Il est mis nu sur la place publique et on peut imaginer ce que c'est qu'un brûlé vif quand on voit ce qu'est une brûlure de cigarette. Ça, c'est évident. Et c'est horrible parce que personne ne sait pourquoi il est brûlé dans le grand public.
Et on l'empêche de parler parce qu'il y a cet instrument dans la bouche qui l'empêche de parler.
Mais parce que ses derniers mots étaient terribles aussi. En s'adressant au juge, il aura dit « Je ne veux pas me repentir, il n'y a pas matière sur laquelle se repentir et j'ignore sur quoi me repentir ». Donc on a peur de ces derniers mots aussi.
Il le dit lui-même, d'ailleurs vous avez plus peur de moi, de votre jugement. Et alors, toutes ces découvertes après sont effectivement confirmées, une fois qu'on a des lunettes astronomiques, par Galilée, 10 ans plus tard. Mais Galilée, lui, va échapper au sort de Giordano Bruno devant le même tribunal que lui.
Galilée, vous n'aimez pas l'Église depuis 20 ans que nous vous observons. Vous n'avez cessé de chercher à l'affaiblir.
Ah non, je ne peux pas accepter cette accusation, je la récuse de toutes mes forces. Je suis un bon chrétien. J'ai fait deux fois le pèlerinage à Loreto.
Giordano Bruno, lui aussi, prétendait être un bon chrétien. Il l'a prétendu jusqu'au bûcher. Vous êtes vous-même un hérétique.
Moi, Galiléo Galilei, voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ses erreurs. Je le jure avec l'aide de Dieu et sur ses saints évangiles, comme ci-dessus à Rome, dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, est signé de ma propre main.
Et Galilée aurait ajouté, pourtant elle tourne. Il sera, lui, alors, en revanche, ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean Rocky, c'est qu'il a été réhabilité plus ou moins par l'Église Galilée. Giordano Bruno,
moins que
jamais.
Plus.
Oui. Mais Giordano Bruno, jamais. Il n'a jamais été question de réhabiliter.
Pas un mot, c'est
jusqu'à aujourd'hui.
Il y a quand même l'infaillibilité papale qui joue dans l'affaire. C'est qu'un pape ne peut pas se tromper. Et Clément VIII est directement impliqué dans,
le pape
dans,
de l'époque, oui.
dans la mort de Bruno. Mmh. C'est évident.
Et alors que, dites-vous, c'est le premier homme moderne. Au fond, c'est un précurseur extraordinaire. Et pas seulement dans l'astronomie, mais dans pratiquement toutes les sciences, Jean Rocky.
Oui, parce qu'il entraîne la métamorphose de la physique. Il entraîne... l'idée de vérifier par l'expérience ce qui est dit en parole, et c'est le début des sciences. Mmh. Il donne quelques idées fondamentales, comme le doute, ce que reprendra Descartes. Il faut douter de tout avant de... C'est le doute méthodique. Il est chez Bruno, ce doute. Et il y a aussi c'est l'ouverture vraiment sur une nouvelle ère, l'ère moderne. Mmh. Alors que des civilisations comme l'égyptienne, la grecque ou la Chine étaient restées bloquées, là, il y a un démarrage des sciences, mais c'est certainement lié, et là, je sais qu'il y a des discussions actuellement sur cette idée-là, sur le fait que l'homme découvre le cosmos, son cerveau prend une autre dimension. Et on a fait sauter les sphères
de cristal,
mais il faut faire sauter les sphères de dogme qu'il y a dans les têtes. Et c'est là, je crois que c'est le début d'une grande bataille qui va arriver aux Lumières, et puis aujourd'hui.
Et puis les sciences, on n'a pas parlé, mais c'est aussi la théorie de la relativité, bien avant Einstein, et puis
La relativité est déjà dans Bruno, elle est reprise par Galilée, qui avait un énorme estomac, et qui ne pouvait pas dire l'origine de ces...
Et tout ça, non pas avec un scientifique, mais avec un philosophe. Un philosophe dont vous parlez dans plusieurs livres, Jean Rocky, L'errance et l'hérésie, ou Le destin de Giordano Bruno, aux éditions François Bourin-Julliard, Giordano Bruno après le bûcher, aux éditions Complexe, et Giordano Bruno, L'irréductible, sa résistance face à l'Inquisition, aux éditions Sileps. À lire également les œuvres complètes de Giordano Bruno, qui sont éditées aux éditions Les Belles Lettres. Vous avez pu entendre des extraits de Giordano Bruno, un film de Giuliano Montaldo avec Gian Maria Volonté dans le rôle titre, du téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verreg avec Claude Rich dans le rôle de Galilée est disponible en DVD chez Coba Film Vidéo. Et enfin, la pièce de théâtre La vie de Galilée de Bertolt Brecht qui avait été mise en scène il y a quelques années par Jacques Lassalle. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Bézikian, Christophe Papon, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Mathieu Menossi et Anne Kobilac. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, la vie de cour sous Louis XIV. Mardi, la famille Kennedy, et je recevrai André Caspi. Mercredi, les débuts du christianisme avec Alain Decaux. Jeudi, les femmes dans les camps nazis. Et enfin, vendredi, nous entamerons une série d'émissions spéciales présidentielles, comme chaque vendredi d'ailleurs, à partir de maintenant jusqu'au 20 avril, en partenariat avec Le Monde 2. Et vendredi prochain, nous parlerons de l'Élysée, l'histoire d'un palais. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.